Émile Littré. Comment j'ai fait mon dictionnaire de la langue française, 1880. Causerie. Rien ne m'avait préparé particulièrement à une entreprise de ce genre. Rien, et les travaux consignés dans le présent volume, et ceux plus considérables que contient l'histoire de la langue française. Sans doute. Mais cela qui me qualifia amplement lors des transformations de mon premier et vague projet y est postérieur. Et je répète en toute vérité, rien ne m'avait préparé à une entreprise de ce genre. J'avais dépassé 40 ans, la médecine grecque m'occupait entièrement, sauf quelques excursions littéraires qu'accueillaient des journaux quotidiens et des revues. Je donnais chez M. J.B. Bayer une édition d'Hippocrate, texte grec, avec la collation de tous les manuscrits que je pus me procurer, notes et commentaires. Édition dont le premier volume me valut le suffrage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et dont le 10e et dernier ne parut qu'en l'année 1860. C'était bien assez de besogne. La Fontaine dit de son homme déjà pourvu d'un gibier suffisant, « Tout modeste chasseur en eût été content. » Son chasseur n'était pas modeste. Et le fabuliste ajoute aussitôt « Mais quoi, rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes. » Entendons-nous pourtant sur mes vastes appétits. Je suis de ces esprits inquiets ou charmés qui voudraient parcourir les champs divers du savoir et obtenir, suivant la belle expression de Molière, des clartés de tout. Mais, à la fois avare et avide, je n'aimais à rien lâcher. C'est ainsi que je continuais mon Hippocrate, tout en entreprenant mon dictionnaire. Que n'ai-je pas roulé en mon esprit? Si ma vieillesse avait été forte et que la maladie ne l'eût pas accablé, j'aurais mis la main, avec quelques collaborateurs, à une histoire universelle dont j'avais tout le plan. Mais revenons. La conception du dictionnaire fut due, en de telles circonstances, à une occasion fortuite. N'eut d'abord qu'un petit commencement et un caractère fragmentaire, et ne parvint que par des élaborations successives à se former en un plan général et en un ensemble où toutes les parties concouraient. Mes lectures, toujours très diverses, avaient amené sous mes yeux des recherches étymologiques. À la suite, je me plus à partager quelques mots français en préfixes, suffixes et radicaux. Cela me parut curieux. Et incontinent, sans prendre le temps ni la peine de pousser plus loin l'expérience, j'imaginais qu'il y avait là matière à un dictionnaire étymologique de la langue, refaisant, à la lumière des méthodes modernes, ce que Ménage avait fait 200 ans auparavant, non sans mérite. Au reste, ces préliminaires, qui d'abord absorbaient toute mon attention, et qui plus tard se réduisirent d'eux-mêmes à leur proportion véritable, ne furent pas complètement perdus. Et dans l'œuvre définitive, à leur rang alphabétique, j'ai donné une certaine place aux préfixes et aux suffixes en expliquant l'origine et la signification. Innovation non inutile, car les préfixes et les suffixes sont des éléments français dont la connaissance importe à l'analyse des mots. Je proposais mon projet à M. Hachette, le grand libraire, à qui me liait une vieille amitié de collège. Il l'accepta. Le titre de l'ouvrage devait être « Nouveau dictionnaire étymologique de la langue française ». Un traité entre nous fut conclu. Il m'avança 4 000 francs. Cela se passait en 1841. 5 années s'écoulèrent sans que j'eusse mis sur le chantier le travail dont j'avais pris l'initiative et la responsabilité. C'était, j'en conviens, bien du retard et bien de la négligence. Je ne puis me justifier, je ne puis que m'excuser et plaider les circonstances atténuantes. J'eus, dans cet intervalle, le malheur de perdre ma mère. Cette mort me plongea dans un deuil profond, et pendant de longs mois je demeurai incapable de reprendre le cours habituel et nécessaire de mes occupations. Je dis « nécessaire », car cette oisiveté par chagrin porta beaucoup de découragement dans mes petites affaires. D'autre part, quand je commençais de revenir à moi, M. Bayer, autre éditeur qui me fut toujours bienveillant et ami, me talonna pour Hippocrate, dont, avec raison, il voulait que les volumes se suivissent avec quelque régularité. Sous ces diverses pressions, je ne sus pas disposer mon temps pour le dictionnaire étymologique, nouvelle besogne qu'il fallait introduire dans le cadre de la journée, et je laissai de côté les engagements dont le souvenir venait parfois me causer de désagréables sursauts. Cette torpeur, qui n'avait que trop duré, M. Hachette m'en tira en me sommant de commencer. On sait que parfois, pendant le sommeil, des idées qui nous ont occupés la veille s'élaborent inconsciemment. De même, pendant ce trop long sommeil de notre projet, ses idées et les miennes s'étaient modifiées, et il me proposa d'annuler l'ancien traité, d'en conclure un autre et de donner au travail un nouveau titre, le titre de « Dictionnaire étymologique, historique et grammatical de la langue française ». On y remarquera l'adjonction d'historique. C'était là, en effet, depuis que je considérais mon projet sous toutes ses faces, le point dominant qui me préoccupait et qui cadrait le mieux avec ma qualité d'érudit et mon titre de membre de l'Académie des inscriptions. Je n'étais pas le premier qui eût conçu l'introduction de l'histoire en un lexique de la langue française. Voltaire en avait proposé une ébauche en conseillant de citer, au lieu d'exemples arbitraires, des phrases tirées des meilleurs écrivains. Mais surtout Génin, amoureux de l'ancienne langue, recommanda de remonter délibérément jusqu'à elle et de ne pas craindre d'y chercher des autorités. Je m'appropriai et l'avis de Voltaire et l'avis de Génin. J'en composai un plan original qui fut bien à moi. J'étais le premier qui entreprenait de soumettre de tout point le dictionnaire à l'histoire, exécutant l'œuvre si j'avais force, patience et chance favorables. Voyez en effet ce qu'est la chance. Bien plus tard, et quand j'avais déjà commencé l'impression, j'appris indirectement qu'un savant homme, M. Godefroy, avait lui aussi songé à un dictionnaire historique de la langue française et amassé des matériaux à cette fin. La nouvelle de l'avance que j'avais prise lui ôta tout espoir. À lui, la chance manquait. Pourtant, tout ne fut pas perdu. Ses amples lectures et sa riche collection d'anciens exemples fournissaient sans peine de quoi faire un dictionnaire de la langue Doyle, lequel nous manque. Bientôt, je fus en rapport avec M. Godefroy, je donnai mon approbation à une telle entreprise. Je le confirmai dans la persuasion qu'elle était fort désirée. J'exhortais, je pressais, j'alléguais maintes fois mon exemple et mes procédés. « La mouche du coche, dira-t-on. » Non, pas tout à fait, car M. Godefroy m'a payé de ma peine en me dédiant son livre, dont la première livraison vient de paraître, enlevant ainsi à l'érudition allemande qui s'y préparait allègrement l'honneur de nous donner, à nous Français, un glossaire de notre vieille langue. À moi, la chance s'ouvrait sous la forme de la seconde proposition de M. Hachette. Peut-être, après tant de préliminaires, étonnerais-je mon lecteur en lui confessant que, loin de la saisir avidement, je demandais 24 heures de réflexion. Ces 24 heures furent un temps d'angoisse. Je passai la nuit sans fermer l'œil, soupesant en idée le fardeau dont il s'agissait définitivement de me charger. Jamais la sévère réalité du vers d'Horace ne se présenta plus vivement à mon esprit. La longueur de l'entreprise, qui, je le prévoyais, me mènerait jusqu'à la vieillesse, et la nécessité de la combiner durant beaucoup d'années avec les travaux qui me faisaient vivre, se jetait en travers de ma résolution. Enfin, vers le matin, le courage prit le dessus. J'eus honte de reculer après m'être avancé. La séduction du plan que j'avais conçu fut la plus forte, et je signai le traité. Pourtant, ma confession n'est pas tout à fait complète. M. Hachette m'avait avancé, je l'ai dit, 4 000 francs, et les rendre devenait une première obligation du moment que rien ne se concluait entre nous. Je n'étais pas hors d'état de les restituer, mais il faisait partie des quelques économies auxquelles je tenais, comme le petit épargnant tient à ses épargnes. Ils ne furent donc pas sans une certaine influence sur ma détermination. Toutefois, j'étais destiné à n'en pas jouir. La révolution de février, 2 ans après, me les enlevait, avec le restant des économies qui m'étaient si chères, placées en des dépôts que la crise universelle du crédit fit sombrer. La catastrophe ne toucha pas à mon dictionnaire, à mon plan, à ma résolution. Le résultat, il faut bien juger par le résultat, puisque auparavant nous ne pouvons percer l'avenir, m'a donné bien au-delà de ce que, dans mes anticipations les plus ambitieuses, j'espérais en fait de compensation. Le commencement était de rassembler force exemples pris dans nos classiques et dans les textes d'anciennes langues. Les classiques allèrent de soi, sans que je m'interdisse de sortir de leur cercle. Quant aux textes d'anciennes langues, je pris les plus célèbres dans chaque siècle depuis le XIIe, le XIe à peu de choses, jusqu'au XVIe inclusivement. Le XVIe siècle est la limite de mon historique. Mon atelier fut aussitôt constitué. Monsieur Hachette mit à ma disposition des personnes instruites qui lurent pour moi les auteurs et inscrivirent sur de petits papiers portant en tête le mot de l'exemple les phrases relevées. Je les ai nommés dans la préface du dictionnaire et remerciés, ainsi que quelques volontaires qui se plurent à me fournir du secours. Mes instructions étaient fort générales. Recueillir, autant que faire se pourrait, des exemples de tous les mots. Malgré nos recherches, plus d'un est resté sans citation. N'omettre ni les archaïsmes, ni les néologismes, ni les contraventions à la grammaire. Avoir l'œil sur les acceptions détournées au singulier, et donner la préférence aux exemples intéressants, ou par leur élégance, ou par l'anecdote, ou par l'histoire. Tels furent les points dont je causais avec eux. L'exécution fut laissée à leur propre vue, à leurs habitudes, à leur goût personnel, et aussi au hasard des rencontres. Je lus de mon côté et dépouillai certains livres, non seulement pour augmenter la somme du travail, mais surtout pour avoir par moi-même expérience de ce genre de besogne et mieux apprécier les contributions de mes auxiliaires. Toutefois, la vraie pierre de touche fut quand le moment vint d'utiliser ces exemples et de les incorporer dans la rédaction de l'article auquel ils se référaient. Alors je reconnus que plus d'un, des miens comme de ceux de mes auxiliaires, était suspect à divers titres. Monsieur Hachette voulait que mes citations se bornassent à nommer l'auteur et ne fussent pas accompagnés des renseignements qui permettraient de les retrouver, édition, chapitre, page. Son motif était que, vu la multitude des indications et la facilité de se tromper sur des chiffres, soit en écrivant, soit en imprimant, ce serait un grenier à faute. Telle fut son expression. Mais ce parti, par trop radical, quand même je l'aurais pris, n'eût pas remédié à ce qu'il y avait de vicieux ou d'insuffisant en certaines citations. Le seul recours était la vérification, toutes les fois qu'un soupçon quelconque s'élevait, vérification souvent fort laborieuse et grande consommatrice d'heures et de recherches. Néanmoins, je ne me rebutais point, et je réussis à donner à mes citations toute leur qualité de précision. Malgré le pronostic, ce ne fut point un grenier à faute. Pendant que je recueillais paisiblement des exemples, de terribles événements éclatèrent qui changèrent la face de la France. En 1848, une émeute vite transformée en révolution la mit soudainement en république. La stupéfaction peu bienveillante de la province, à la vue d'un changement sur lequel elle n'avait pas été consultée, les idées révolutionnaires des uns, les systèmes socialistes des autres parmi les vainqueurs, l'incertitude sur l'issue d'une pareille crise, jetèrent dans le désarroi la fortune publique et les fortunes privées. Le sanglant conflit de juin, dans Paris même, entre l'Assemblée nationale et les ouvriers, n'était pas fait pour rien amender. Et quand M. Hachette, commandé avec sa compagnie de garde nationale pour attaquer le vendredi une barricade élevée en son quartier, il demeurait alors rue Pierre-Sarrazin, rue aujourd'hui détruite, reçut une décharge qui le couvrit du sang de plusieurs de ses voisins, il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il ait hésité à continuer une aussi lourde entreprise que le dictionnaire, et suspendu au fort de l'orage les secours qu'il me fournissait. Mais la maison était dès lors solidement établie, et son chef intrépide et habile tint tête aux circonstances. Après une hésitation qui ne fut que momentanée, il persévéra, et je persévérai avec lui. À la longue, l'amas que je faisais crut tellement que je me jugeais suffisamment pourvu d'exemples. En réalité, je ne l'étais pas. mais je ne fis pas moins fort bien de m'arrêter ainsi, sauf reprise, en la voie de la collection. Avec les proportions où j'avais conçu mon dictionnaire, je me serais perdu sans ressources dans le temps et dans l'espace si je m'étais laissé aller. En chacun des compartiments qu'il embrassait, à la tentation très naturelle du reste d'y être complet. Il était urgent de se résigner à un sacrifice et de procéder au tout en se refusant à mettre la dernière main au parti. Je n'ai point eu à me repentir de ma résolution. Le tout se fit et c'était l'essentiel. Car en bien des cas, il est le juge suprême des parties. Puis les parties furent reprises en sous-œuvre et avec une meilleure entente, ce qui compensa suffisamment l'interruption que je leur avais infligée. Il me souvient qu'il y a quelques années, un Anglais, songeant à faire pour sa langue ce que j'avais fait pour la mienne, me demanda par un intermédiaire de le renseigner sur la manière dont j'avais procédé. Je lui donnai de grand cœur quelques indications essentielles. Mais, je ne le reconnais que trop aujourd'hui, elles étaient certainement insuffisantes. Et si j'avais pu alors lui remettre la notice que j'écris présentement, je lui aurais été de plus d'utilité en lui sauvant les tâtonnements. À moi, ils ne furent pas sauvés. J'avais, il est vrai, en lexicographie, d'illustres prédécesseurs, Henri-Étienne, Ducange, Forcellini, Ducange surtout, que j'ai feuilleté sans relâche et pour qui je suis reconnaissant comme s'il était là me prêtant l'oreille. Je n'ai pas l'outrecuidance de me comparer à eux. Leur tâche, d'ailleurs, n'a pas été la même que la mienne, car ils se sont occupés de langues mortes où tout est clos, et moi j'ai eu affaire à une langue vivante où tout demeure ouvert. Quoi qu'il en soit de cette différence, ils ne nous ont pas dit comment ils s'y sont pris pour composer leur trésor. Je serai moins discret, et, au risque de faire penser à mon lecteur que je suis moins modeste, plus personnel, ou, selon l'expression des Anglais, plus égotiste, je continue ma narration lexicographique. Je prononçai donc la clôture de la récolte des exemples. Ils étaient écrits sur de petits carrés de papier, portant chacun le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, la page ou le chapitre. Chaque écrivain formait un paquet de ces carrés, déjà rangés alphabétiquement. Cela dut être transformé en un arrangement alphabétique général. Cette besogne toute matérielle, dont je me chargeais, m'occupa pendant plus de 3 mois plusieurs heures par jour. On peut juger par là combien la masse en était considérable. Je l'admirais vraiment, non sans quelque secret effroi, quand je la vis si grosse dressée devant moi. Mais ma peine commençait à être récompensée. Car en ce tas de petits papiers, je possédais, sous un état informe, il est vrai, le fond des autorités de la langue classique et le fond de l'histoire de toute la langue. J'ai, dans la préface de mon dictionnaire, donné le tableau et l'explication du mode selon lequel j'ai traité chaque mot en particulier, et de l'ordre constant que j'ai suivi en ce traitement, de façon que celui qui ferait une recherche ne fût jamais dérouté. Ce tableau, que je viens de relire, est excellent. Et s'il m'avait été possible, c'est ma plainte perpétuelle, de l'avoir de bonne heure sous les yeux, il m'eût épargné la perte de bien des heures et aussi quelques angoisses. Mais loin d'être un antécédent, il fut un conséquent, et je ne l'obtins ainsi clair et déterminé qu'au prix de maints essais avortés et de maintes fausses routes. Celui qui considère mes 4 volumes, leurs milliers de pages et leurs 3 colonnes, estime certainement que beaucoup de temps a été employé à tout cela. Mais ce dont il ne se doute pas, c'est combien de temps, dont il ne reste aucune trace, a été enfoui en recherches vaines et sans résultat, en retour sur les pas faits, en remaniements et en reprises. Moins préparé que je ne croyais l'être, mais pourtant préparé assez pour ne pas m'égarer, je commençai la rédaction et la menai à terme. Ce fut long, et j'y employai non des mois, mais des années. Il en résulta une œuvre non petite qui, dans mon inexpérience de moi-même et de mes conditions mentales, me sembla définitive. Je ne savais pas alors, aussi bien que je le sais maintenant, qu'avec moi le définitif ne s'obtient pas si facilement. combien ma satisfaction prématurée devait être châtiée, et combien j'étais encore loin du terme que je croyais avoir atteint. Cette masse de papier allait être doublée, triplée, peut-être quadruplée. Je n'ai pas tenu un compte exact, mais le fait est que cette première rédaction disparut comme un embryon dans la seconde. Mon désillusionnement s'opéra quand il fallut enfin donner de la copie, c'est le mot technique, à l'imprimerie. Tous les auteurs ne se comportent pas de la même manière à l'égard de la copie. Quelques-uns la livrent telle qu'elle doit demeurer. Elle est du premier coup achevée et aussi parfaite que le veut le talent de chacun. L'épreuve ne reçoit d'eux que des corrections typographiques. Ils sont la joie du metteur en page, n'occasionnent ni remaniement ni retard. Auguste Comte et Armand Carrel, parmi ceux que j'ai vus travailler, ont été des modèles dans cette manière de faire. Tout était si nettement arrêté en leur esprit qu'ils ne changeaient plus rien ni à la pensée, ni au tour, ni à l'expression. D'autres ne voient dans l'épreuve qu'un brouillon taillable et raturable à merci, et ils le taillent et le raturent. Une nouvelle épreuve arrive, nouvelle occasion de recommencer le travail de la correction, et ils ne parviennent à se satisfaire qu'au prix de plusieurs épreuves et des malédictions du typographe. D'autres, enfin, tiennent le milieu. Ils ne sont ni aussi arrêtés que les premiers, ni aussi flottants que les seconds. J'étais de cette dernière catégorie, avec tendance pourtant à laisser sortir de mes mains une copie non suffisamment préparée. Mais, un jour que sur une épreuve j'avais beaucoup effacé et remanié, M. J.B. Bayer, qui fut pour mon Hippocrate ce que M. Hachette fut pour mon dictionnaire, me fit observer que ces ratures et ces remaniements étaient un travail perdu, ennuyeux à l'imprimeur, coûteux à l'éditeur, et qu'il serait préférable pour tout le monde d'achever davantage la copie et de réserver les remaniements aux cas indispensables. Le raisonnement me parut sans réplique, et comme je suis corrigible, ayant de bonne heure compris qu'il était peu sage de répondre aux suggestions d'amendement « je suis comme cela », j'ai depuis toujours eu à cœur, selon la capacité de mon esprit, de conduire au plus près du définitif ma copie avant de m'en dessaisir. C'était ce que je croyais avoir fait en ce que j'appellerais la première édition manuscrite de mon dictionnaire. Mais au faire et au prendre, elle ne fut qu'un canevas. Instinctivement, c'est-à-dire sous l'empire d'une crainte vague d'être insuffisant à ma tâche, je reculais le commencement de l'impression. Au contraire, M. Hachette avait hâte de mettre en train une opération qui devait durer bien des années. Puis il était en pourparlers avec un professeur de l'université disposé à collaborer avec moi, mais qui, si l'on renvoyait trop loin le début, chercherait ailleurs emploi de ses quelques loisirs. C'était M. Beaujean, aujourd'hui inspecteur d'académie. La suite de mon récit montrera combien M. Hachette avait raison et était prévoyant en ne laissant pas échapper pour moi cette collaboration. Par un autre côté aussi, ces instances se justifiaient hautement, car il devenait de plus en plus urgent qu'une nécessité extérieure inexorable me contraignît à faire appel à toutes les ressources de mon esprit et que je cessasse de reculer devant la lourdeur du fardeau, à l'égal de la bête d'Horace, inique mentis azelus, petite âne de mauvaise volonté. Poussé, pressé, je me décidai à prendre en main mes papiers bien numérotés et bien ficelés par paquets, et à préparer de la copie définitive pour l'imprimerie. Quel ne fut pas mon désespoir, le mot n'a rien d'exagéré, quand je me convainquis qu'en l'état, je n'avais aucun moyen de fournir de la copie en quantité et en qualité suffisante à une imprimerie qui allait en consommer beaucoup. Justement, je débutais par la préposition « à », qui est le mot le plus difficile, je crois, de tout le dictionnaire. La perspective fut décourageante. C'était celle d'une impression qui marcherait avec lenteur, si bien que ni moi ni mon éditeur, qui n'étions plus jeunes, n'en verrions la fin. La perte eût été grande pour lui. Pour moi, c'était un désastre infini, matériellement sans doute, mais surtout moralement. Alors il me souvint de la nuit d'angoisse et d'insomnie que j'avais passée quand je pris la résolution qui tournait si mal, et je me repentis. l'oubli presque inconcevable et fort malencontreux d'une précaution toute matérielle aggravait encore mes difficultés. Je n'avais pas eu le soin de mettre et de faire mettre, en cette rédaction que je prenais pour la relire et la livrer, chaque signification et chaque exemple sur un papier séparé. Et maintenant, avec une pareille copie, comment opérer les classifications, les rectifications, les additions de la masse énorme de matériaux recueillis postérieurement? Il fallait beaucoup recopier, et recopier beaucoup en un travail où les écritures tenaient tant de place, allongeait une besogne déjà trop longue. Ainsi cerné de tous côtés, je tombais dans le découragement. Il n'est rien de tel que d'être dans une mauvaise position pour avoir de mauvaises pensées. J'essayais de me persuader que mon dictionnaire, tout imparfait qu'il était en cette première rédaction, l'emportait par de véritables avantages sur les dictionnaires précédents, et que cela devait me suffire. En cette façon, je procédais par la flatterie envers moi-même pour me décider à déserter mon œuvre, et pour me résigner, tout en voyant le mieux et le plus, au pire et au moindre. Commencer aussitôt l'impression, la pousser rapidement, et terminer en un délai relativement court, quelle tentation! Mais aussi quelle chute devant ma propre conscience et devant mon devoir à l'égard de mon éditeur. Ang demum litem melior natura diremit. Une meilleure nature a précisément mis fin à ce débat. Ma meilleure nature, en effet, mit fin à la contention intestine dont j'étais à la fois le siège et le juge. J'eus honte de ma faiblesse. J'eus honte de la flatterie par laquelle j'essayais de me corrompre et d'endormir mes scrupules. J'eus honte de ne pas placer les intérêts de mon éditeur sur le même niveau que les miens. J'eus honte, enfin, de ne pas exécuter mon plan dans sa conception pleine et entière. Abandonnant la saine et loyale espérance de produire, en un domaine aussi rebattu que celui de la lexicographie, un dictionnaire vraiment original, et de mériter, moi aussi, quelque gratitude de la part des travailleurs. Ces réflexions et ces reproches me rendirent l'empire sur moi-même, et bien m'en pris. Les éléments instructifs, curieux, historiques, abondent dans mon dictionnaire. Plus d'une fois, il m'est revenu que, cherchant un mot, le chercheur s'attarda et suivit la lecture comme il eût fait d'un livre ordinaire et courant. J'avoue que ces dires n'ont jamais manqué de chatouiller de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse. Toute cette récompense était perdue si j'avais misérablement faibli. Les conseils bons et honnêtes ayant ainsi prévalu, j'appliquais toutes les forces de mon esprit et de mon courage à surmonter les obstacles dressés devant moi. Je vis bientôt, et avec toute certitude, le point décisif de ma situation. Il était indispensable, mais il était suffisant, pour me mettre au-dessus de mon affaire, que je prisse sur l'imprimerie une avance, fût-ce seulement de quelques semaines, qui me permit, sans arrêter jamais ou même ralentir la composition, de grossir, au fur et à mesure de mes remises à mon metteur en page, mon canevas de tout ce que j'avais amassé, d'en remanier les divisions au gré de mes notes, et de le réformer sans rien rabattre de mes meilleures ambitions. Cette avance, je devais la gagner en préparant chaque semaine un peu plus de copies que l'imprimerie n'en consommait. Comment je réussis à faire ces petites épargnes qui, accumulées, me constituèrent un fonds complet de roulement? C'est ce que j'expliquerai après avoir exposé d'abord de quelle façon le travail de l'impression, car je la commençais intrépidement, fut organisé de concert avec mes collaborateurs. Ils étaient au nombre de quatre, messieurs Beaujean, Julien, Sommer et Baudry. Dans le cours de l'œuvre, M. Sommer mourut et fut remplacé par M. Despois. M. le capitaine d'artillerie André, plus tard, m'offrit son aide que j'acceptai de grand cœur. Tels furent mes collaborateurs réguliers, sans parler de plusieurs volontaires qui, à un jour ou à un autre, pour ceci ou pour cela, me fournirent gracieusement des renseignements fort appréciés. Je ne répéterai pas ici l'expression de ma reconnaissance. Non qu'elle se soit affaiblie, loin de là, elle est plus sentie aujourd'hui qu'au moment même. Alors j'étais dans l'effort de l'enfantement et la fièvre de l'incertitude. Aujourd'hui, un succès bien établi me fait toucher du doigt combien ils m'y ont aidé. En vérité, dans un ouvrage aussi complexe que le mien, plus on a de collaborateurs, plus on évite de fautes, d'imperfections, de lacunes, surtout quand ces collaborateurs sont gens de grand savoir qu'ils mettent sans réserve au service de la collaboration.